Mes amis, avec un grand plaisir, nous nous retrouvons à nouveau. Et le cours, comme d'habitude, est à la mémoire de monsieur et de madame Cain. Et on va commencer. Vous savez que, si je ne me trompe pas, c'est ou la semaine dernière ou la semaine d'avant. Mais dans la paracha, pas de cette semaine, il me semble que c'est la semaine dernière, on a ce fameux verset qui dit que « à Adam etz asadé ». Que l'homme est comparé à un arbre dans les champs. D'accord ? Ça ressemble à la chanson de qui ? Comme un arbre dans la ville. Qui c'est qui chantait ça ?
Je ne connais pas.
Mais si, très connu le chanteur. Comme un arbre dans la ville. Maxime Le Forestier, très bien. Bravo. Maxime Le Forestier. Comment ? Ouais, c'est il y a 40 ans, hein, c'est l'époque où on écoutait la musique française. Comment ?
Des musiques à paix, chants à texte.
Ah, c'était des beaux chants. Voilà, donc en tous les cas, la Torah nous dit que l'homme est comparé à l'arbre des champs. Et les commentaires expliquent quelque chose d'assez extraordinaire. Au niveau du décodage, bien sûr, de la Torah, je l'ai expliqué des millions de fois et vous savez que toute la Torah est codée. Malheur à celui qui prend la Torah à la lettre. Et on va revenir donc finalement à ces deux fameux arbres. L'arbre du bien et du mal et l'arbre de la vie. À partir du moment où la Torah nous révèle que l'homme est comparé à un arbre, donc au niveau du décodage, on comprend que l'arbre du bien et du mal et l'arbre de la vie font allusion à deux types d'hommes. Et il y a un homme qui est du côté, d'une certaine manière, la majorité des humains depuis la faute de Adam, qui a choisi de manger de l'arbre du bien et du mal, c'est-à-dire d'aller vers le bien et le mal. Et la Torah dit que cet arbre-là, c'est l'arbre de la mort. On va bientôt expliquer. Et il y avait un autre arbre, l'arbre de la vie. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'arbre. Tout est codé, il s'agit de deux manières d'être un homme. Dieu voulait que Adam soit l'homme de la vie, et malheureusement, il a choisi d'être l'homme de la mort, le bien et le mal. Yetzer Tov, Yetzer Hara. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, on va revenir à la parasha de cette semaine, expliquée d'après Rashi, les quatre premières parties de cette parasha. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je vais expliquer la notion principale. La première partie de cette paracha, des soldats israéliens, j'aime pas le mot juif, parce que le juif c'est un mot galoutique. La première fois qu'on est appelé les juifs, je l'ai déjà dit la semaine dernière, c'est en galoute. Avant on était les hébreux. Et d'ailleurs il faut tout faire, parce qu'on est revenu sur notre terre, pour arrêter de s'appeler des juifs. On n'est pas des juifs, on est des hébreux. Avraham à Ivry. Malheureusement, quand on est parti en Babylonie, on nous a appelés les Juifs. Pourquoi ? Ben parce que Juif vient du mot Yehuda. Et donc, comme c'était 80% de ceux qui sont partis en Babylonie étaient de la tribu de Yehuda, on les a appelés des Yehudim. Et après, en français, c'est devenu des Juifs. Mais en vérité, on est des Hébreux. Et on n'est pas des Juifs. Donc, je reviens à ce que j'explique. Donc, de quoi parle la Torah ? Il y a quatre parties très importantes. La première partie, un soldat se bat donc avec l'armée israélienne contre les ennemis d'Israël. Et comme c'est le cas jusqu'à aujourd'hui, mais c'est très très caché, on n'en parle pas. Les soldats, quand ils vont loin de leur pays, prenez les Américains en Afghanistan, vous imaginez que ou en Irak, ils vont rester pendant des semaines et des mois sans femmes, c'est impossible. Donc l'armée s'organise, jusqu'à aujourd'hui c'est le cas, l'armée s'organise pour envoyer des prostituées avec les soldats. Elles sont dans une base particulière et après les soldats peuvent s'amuser parce qu'ils ne peuvent pas rester pendant des semaines ou des mois loin des femmes. Et surtout s'ils sont en Irak ou en Afghanistan, il n'y a aucune chance qu'ils aillent avec une musulmane. Les musulmanes, grâce à Dieu, sont des femmes sérieuses et donc elles n'iront pas avec un soldat américain. Et donc on leur amène des prostituées. Et c'est exactement ce que la Torah nous dit. La Torah nous dit, à 4000 ans, que dans l'armée ennemie, il y avait tout un réseau de prostituées qui était là pour satisfaire les besoins des soldats dans les moments de repos, des soldats ennemis dans les moments de repos. Et donc l'armée israélienne a gagné, elle a détruit l'armée étrangère, l'armée ennemie, et puis elle se retrouve en face de centaines de prostituées. Et il y a un homme qui voit une très 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 belle femme, Isha Yefat Tohar, une très 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 belle femme. Le mot Yefat Tohar en hébreu veut dire un superbe mannequin, une super femme parmi ses prostituées. Et il tombe amoureux d'elle. Et donc, il la prend, plus ou moins de force. Et après, une fois que le combat est fini, il la ramène chez lui à la maison. Il la convertit, plus ou moins de force, puisqu'il ne peut pas se marier avec elle si elle n'est pas convertie. La conversion n'est pas très sincère non plus, puisque de toute façon, on ne lui demande pas son avis. C'est pas elle qui a décidé de se convertir. Mais plus ou moins, il l'a convertie. Et puis, bon, eh ben, il vit avec elle. Pour l'instant, je n'explique pas encore. Je vous lis les trois passages. Deuxième passage, on nous dit « Lorsqu'un homme aura une femme qu'il haït et une femme qu'il aime, avec la femme qu'il haït, il aura un premier-né. Avec la femme qu'il aime, il aura un deuxième enfant, mais qui n'est pas le premier-né. » Or, vous savez que le premier-né, lorsque le père décède, le premier-né reçoit deux parts. Et lui, comme il n'aime pas cette femme-là, il veut déshériter le premier-né et donner les deux parts au deuxième, avec la femme qu'il aime. Et la Torah nous dit que, après je vais tout expliquer, que non, tu n'as pas le droit de déshériter, même si tu n'aimes pas cette femme-là, tu n'as pas le droit de déshériter son fils, puisqu'il est ton premier-né, il est ton béchor en hébreu, c'est lui qui doit recevoir les deux parts. Troisième passage, il y a quatre passages, troisième passage, on parle du ben sorer ou moré, du fils révolté, un voyou, un jeune adolescent, voyou, il a plus de 13 ans, mais qui ne respecte pas ses parents, qui vole ses parents, qui se comporte très 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 mal. Et bon, donc, il est jugé, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Et enfin, le dernier passage, on parle d'un homme adulte qui est devenu un assassin et qui après est attrapé par le tribunal. Et comme il passait son temps à tuer les gens, il sera condamné à mort. À quoi font allusion ces quatre passages ? Rashi explique d'une manière extraordinaire que tout a commencé avec cette belle femme que le soldat avait vue. Et en vérité, pourquoi il a voulu aller avec elle ? À cause de son Yetzer Hara. Parce que bon, on sait tous, on est adulte, un homme au combat, on sait que le combat réveille des instincts terriblement forts chez l'homme. Pourquoi ? Parce que bon, il a des moments de peur, des moments de panique, il tue, etc. Ça réveille des envies de plaisir énormes chez les soldats. C'est pour ça que de toute façon, les soldats, c'est les hommes les plus débauchés de la terre. Tous les soldats, quand ils rentrent dans un village, ils violent toutes les femmes qui se trouvent dans ce village-là, que ce soit les Américains, les Français, etc. Tout le monde, et peut-être même les Israéliens aussi. Chez les Israéliens, c'est plus difficile, parce que comme ce sont des musulmans, les musulmans ne se laissent pas faire. Vive l'islam. Et donc, c'est vrai, elle ne se laisse pas faire du tout. Toucher une musulmane, c'est pas évident. Mais quand c'est des femmes non musulmanes, c'est un peu plus facile. Et on sait très bien que les soldats américains au Vietnam ont fait des ravages parmi les femmes inimaginables. Hein. Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de jeunes Vietnamiens américains qui sont en Amérique parce que les soldats américains sont rentrés dans un village. Ils violaient toutes les Vietnamiennes. Et donc, je reviens à ce que j'explique. Donc, il voit une très très belle femme, mais c'est son Yetzer Hara. Pourquoi ? Rashi le dit, hein, c'est pas de moi. Son Yetzer Hara, il a envie d'un moment de détente après tout ce qu'il a traversé, de tuer, d'être en danger de mort, etc. Il a besoin d'un moment de détente. Et donc, il la prend. Mais Rashi dit, c'est son Yetzer Hara qui fait ça. Après, son Yetzer Hara, comme elle est très 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 belle, le pousse à l'emmener, la ramener en Israël, à la convertir de force. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Et je vais expliquer dans quelques instants. Il va finir par la haïr. C'est le deuxième passage, une femme qu'il aime et une femme qu'il haït. Cette femme qu'il haït, dit Rashi, c'est en vérité cette femme qui était au départ était une prostituée, extrêmement belle, dont il a eu envie. Il l'a ramenée, il l'a épousée, mais tout ça, c'est encore une fois sous l'emprise du Yetzer Hara, parce qu'elle est très très belle. Et finalement, il va finir par la haïr. Et l'enfant qu'il va avoir avec elle va devenir, troisième partie, le Ben Sorer Umoré. Pourquoi ? Parce qu'un enfant qui voit que ses parents sont toujours en train de se disputer, un enfant qui voit que son père haït sa mère et il la traite de tous les noms, et elle ne se laisse pas faire, elle le traite aussi de tous les noms, l'enfant, ça le perturbe énormément. Et donc finalement, il va mal grandir. Et comme il va mal grandir, il va être révolté et ça va devenir ce que la Torah appelle un Ben Sorer Umoré, un fils mal dans sa peau. Et le quatrième passage, c'est toujours ce même fils qui va grandir et qui a tellement de mal en lui d'avoir vu que son père frappait sa femme, que sa femme crachait au visage de son père, etc. Cette fameuse donc prostituée du départ, que finalement, ben, ça va faire naître en lui des forces négatives incroyables. Il va devenir un assassin et finalement, il sera tué. Et donc, il sera condamné à mort. Qu'est-ce que la Torah nous fait comprendre ici ? Je vais poser une question très simple, d'accord ? Bon, très bien, c'est Yetzer Hara, le mauvais penchant, qui l'a fait aller vers cette femme-là. Mais d'un autre côté, c'est une femme extrêmement belle, dit la Torah, Yefat Toar, extrêmement belle. Pourquoi il finit par la haïr ? Pourquoi ? Pourquoi il a besoin d'épouser une autre femme qui n'est pas forcément aussi belle que la première ? Pourquoi ? Pourquoi ils vont se haïr ?
La beauté, c'est que superficielle, en fait. C'est...
Alors, je vais dans votre sens. Nos maîtres nous révèlent quelque chose d'extraordinaire. C'est dans le Talmud. Merci aux maîtres d'Israël. Ils nous disent « Yitzro shel adam mitradesh bechol yom ». Le Yetzer Hara d'un homme se renouvelle chaque jour. Ça veut dire qu'il se renouvelle, il t'emmène vers de nouveaux horizons, il t'amène ailleurs. Le Yetzer Hara est une force dans l'homme qui t'empêche de rester dans la même situation dans laquelle tu te trouvais, si tu t'y trouves dès le départ à cause du Yetzer Hara. Ça veut dire que tu peux épouser la femme la plus belle du monde. Mais si c'est ton Yetzer Hara qui t'a amené à être avec elle, parce qu'elle était extrêmement belle, ou extrêmement riche, peu importe, au bout de quelque temps, le Yetzer Hara, disent nos maîtres, il est mitradesh, il se renouvelle, il ne reste jamais coincé dans la même situation, il se renouvelle et il va t'amener vers de nouveaux horizons. Et plus que ça encore, disent nos maîtres, ça veut dire que même cette beauté incroyable que tu voyais en elle, il va y avoir une usure. Tu ne la vois plus comme elle était. Et finalement, tu ne vas plus la voir avec les yeux que tu la voyais dès le départ. Pourquoi ? Parce que ton Yetzer Hara se renouvelle, va t'amener chez une autre, et après chez une autre, et après chez une autre, et après chez une autre. Le Yetzer Hara, c'est quoi ? C'est une force qui t'amène à te séparer constamment de ce qui, au départ, était ta raison de vivre. Maintenant, vous comprenez pourquoi l'arbre du bien et du mal est appelé l'arbre de la mort ? Pas la mort dans le sens physique, la mort dans le sens aussi du vécu. Ça veut dire que j'étais avec toi, mais pour maintenant tu es morte, tu ne m'intéresses plus. C'est ça que ça veut dire. Je vais vers une autre vie. Je vais vers une autre vie, ça va durer quelques mois, etc. Après, elle aussi, elle meurt, je vais vers une autre. Ce n'est pas une mort physique. La Torah ne parle pas que de la mort physique. On parle de la mort dans le sens que tu ne m'intéresses plus, et tu n'existes plus pour moi. Et à partir du moment où je finis par ne plus te trouver aussi belle que tu étais au départ, même si tu l'es toujours, mais moi je ne te vois plus aussi belle parce que mon Yetzer Hara me fait voir un autre style de femme. Et pour moi, tu es morte. Mais tu es toujours là. Et je ne te supporte plus. Et comme on le verra un peu plus tard dans les détails, à ce moment-là, le Yetzer Hara va engendrer ce que nos maîtres appellent l'enfant du Yetzer Hara, la haine. La haine est l'enfant du Yetzer Hara. Je ne te supporte plus. Dégage. Dégage, je ne te supporte plus. Ah, pourquoi il n'a pas divorcé, etc. Parce qu'il a des enfants avec elle. Mais les enfants vont subir des cauchemars inimaginables. Donc il la garde, mais il la hait. Et finalement, l'enfant, après, va devenir un assassin, tellement il a souffert dans sa vie, et malheureusement, il aura la peine de mort. Je reviens maintenant. Nos maîtres expliquent quelque chose d'extraordinaire. L'arbre du bien et du mal, c'est l'arbre de l'extériorité. C'est l'homme extérieur, l'homme qui vit dans le monde de l'extériorité. Et l'arbre de la vie, c'est l'homme qui vit dans le monde intérieur. D'où on le sait. Regardez cette explication extraordinaire. Vraiment, la Torah nous donne des messages sur tous nos maîtres qui sont absolument incroyables. Quelle est la première fois que le mot « chayim » apparaît dans la Torah ? Nishmat chayim, une âme de vie. L'âme, c'est l'intériorité de l'homme. L'âme, c'est l'intériorité de l'homme. Vaipar be'apav nishmat chayim, il a fait rentrer dans le corps une âme de vie. Le corps, c'est le monde de l'extériorité. L'âme, qui s'appelle dans la Torah nishmat chayim, c'est le monde de l'intériorité. Et le Ari HaKadosh révèle qu'en vérité, que l'arbre de la vie est l'intériorité de l'arbre de la mort. Et il explique, l'arbre de la vie, c'est un homme qui vit au niveau de l'intériorité, il vit au niveau de son âme, et l'arbre du bien et du mal, je vais expliquer aussi pourquoi il y a le bien, c'est l'arbre de l'extériorité, l'homme qui ne vit qu'au niveau de son corps. Mais le Ari HaKadosh nous explique, c'est-à-dire que je reprends tout ce que j'ai expliqué, le monde de l'extériorité est le monde du Yetzer Hara, et le Yetzer Hara, c'est la force de la mort. C'est-à-dire que tu t'attaches à quelque chose, et très vite, tu n'en voudras plus. Comme la mort, tu n'en veux plus, tu passes à autre chose. C'est pour ça que nos maîtres dans le Talmud disent que le Yetzer Hara, il est mitradesh, il se renouvelle constamment. Donc toi, tu pensais que tu resteras avec cette femme pendant des années parce qu'elle est très belle, et au bout de quelques mois, tu ne la vois plus comme tu la voyais avant. Pourquoi ? Parce que ton Yetzer Hara t'a créé de nouveaux désirs, t'a créé de nouvelles envies, et il t'amène vers quelque chose d'autre. Vous comprenez ? Pourquoi dans notre génération, comme on va en parler tout à l'heure, au Hachem, ça ne nous concerne pas, mais pourquoi il y a tellement de divorces, et les gens se marient à 27, 28, 29 ans, 2 ans après, 3 ans après, ils divorcent. Pourquoi ? Mais comment c'est possible ? Parce que le monde occidental, c'est le monde de l'extériorité. Il n'y a plus d'intériorité, il n'y a plus rien. Donc, en vérité, je te choisis pour ton corps. Un point, c'est tout. Mais ce que je ne sais pas, c'est que même si tu es encore, peut-être encore plus belle dans 3 ans que tu ne l'étais quand je t'ai épousée, mais je ne te verrai plus de la même manière. Parce que le Yetzer Hara m'aveugle, il fait comme si tu étais morte devant moi. Ou ça peut être le contraire. Bon, je parle d'exemple de la femme, mais en vérité, ça peut être aussi la femme par rapport à l'homme. Et je ne te vois plus de la même manière. Et mon Yetzer Hara me donne des envies pour aller ailleurs. Et je ne suis plus intéressé par toi. Oui.
Mais le Dieu a permis que Adam et Ève ne, finalement prennent l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Oui.
S'ils avaient refusé, il n'y aurait pas eu d'aventure humaine.
Il n'y aurait pas eu l'histoire telle qu'on la connaît.
Et si justement il a permis cela, il donne les moyens de résister au Yetzer Hara.
Oui. En vérité, pour aller dans votre sens, le monde a été créé sur le principe du libre arbitre.
Oui.
Ce qui veut dire que, et une autre raison, le monde a été créé sur le principe de la teshuvah, du retour vers Dieu. Donc, nos maîtres disent qu'en vérité, d'une certaine manière, Hachem a, entre parenthèses, il ne faut pas le prendre à la lettre, laisser ou même forcer Adam à tomber,
oui,
de manière à ce que la teshuvah puisse exister. Le retour vers Dieu. C'est ce que dit le roi Salomon, « Shiva yipol tzadik vekam ». Même le juste tombe 7 fois et il se relève. Ce monde, comme je le dis toujours, et je pense que vous le comprenez hyper bien, ce monde, il n'y a pas d'homme qui ne faute pas dans ce monde. Ça n'existe pas. David n'a pas fauté. Moshe, à son niveau, n'a pas fauté. Quand au lieu de parler au rocher, il l'a frappé, etc. Bon, c'est une faute qu'on ne comprend pas, mais peu importe, c'est une faute comme elle. La preuve, c'est que Hachem l'a puni, il n'a pas pu rentrer en Israël. Trouvez-moi un homme qui n'a pas fauté. Je suis désolé. Même Yosef, qu'on appelle Yosef Hatzadik, Yosef le juste, il s'est déshabillé devant Madame Poutifar. Hein. Ils étaient ensemble. Et au dernier moment, excusez-moi de parler comme ça, quand il allait la pénétrer, tout d'un coup, il a vu l'image de son père, ça l'a retenu, et tout est sorti dehors. C'est pas de moi, c'est dans la Torah. Donc, il ne s'est pas uni à elle, donc il n'a pas fait le issour de Eshetish, il n'a pas fait le issour d'aller avec une femme mariée, mais ils étaient quand même nus ensemble, l'un sur l'autre, et au dernier moment, c'est sorti dehors. C'est pas de moi, c'est dans le Talmud. Et on l'appelle Yosef HaTzadik. Et moi, quand je vous dis ça, j'ai envie de pleurer. Vous savez pourquoi j'ai envie de pleurer? Parce que la Torah est émette. Elle ne nous raconte pas des blagues sur des gens saints, des gens si, machin, etc. Non, un homme est un homme. Un homme est un homme. Alors pourquoi on l'appelle Yosef HaTzadik? Parce que quoi qu'il en soit, il n'a pas été jusqu'au bout. Il a su se retenir malgré tout. Mais malgré tout, il était dans une situation de faute avec elle. Et c'est pour ça que quand après il s'est levé, il s'est enfui, elle était tellement écœurée qu'il n'a pas été jusqu'au bout, qu'elle l'a dénoncé, elle l'a mis 12 ans en prison. Voilà. Mais on voit que même Yosef, qui est appelé le seul qui est appelé Yosef HaTzadik, nos maîtres ont le courage de dire qu'il était sur le point de fauter. Il était déjà dans une situation de faute puisqu'ils étaient nus ensemble. Et pourtant on l'appelle Yosef HaTzadik. Ça veut dire que c'est ce que dit Shlomo HaMeler. Shiva Yipol Tzadik, même le juste y tombe. Alors jusqu'où il va aller dans sa chute, c'est un autre problème. Yosef n'a pas été jusqu'au bout, mais il était dans un état de chute malgré tout. Ça n'existe pas un homme qui n'a pas des faiblesses. Ça n'existe pas. C'est pour ça que Hachem voulait cette expérience par le mal, parce que le but final de toute l'histoire humaine, c'est la teshuva, le retour vers Dieu. Après toutes les mauvaises expériences, après toutes les chutes, c'est pour ça que c'est marqué dans le Talmud, « En ha-mashiach ba, ela besrut ha-tshuva ». Le Mashiach ne viendra que par le mérite du retour vers Dieu. La teshuva. Donc, je reviens maintenant à ce que j'explique. L'arbre du bien et du mal, c'est le monde de l'extériorité, c'est l'homme de l'extériorité, qui finalement, comme on le dit dans le Shema Israël, tu ne suivras pas tes yeux, tu ne suivras pas ton cœur, parce que si tu suis tes yeux, le cœur il suit les yeux et c'est fini. Tu vois une belle femme, tu vois un bel homme, etc. Hop, tes yeux ont fixé l'image, le cœur y suit, c'est le Yetzer Hara. Mais encore une fois, le Yetzer Hara ne durera pas. Il va te faire un croche-pied pour qu'après tu la quittes et que tu ailles vers une autre. Tu la quittes, tu vas vers une autre, etc. Ou le contraire. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça engendre la haine, comme on va le voir d'une manière extraordinaire. Donc Hachem voulait que l'homme choisisse l'arbre de la vie, qu'il vit au niveau de son âme. Et finalement, il a choisi le monde de l'extériorité, vivre au niveau de ses yeux. Maintenant, vous comprenez pourquoi nos maîtres nous disent que qu'est-ce que fait Hachem depuis qu'il a créé le monde? C'est un code, encore une fois, ne le prenez pas à la lettre. Il s'occupe des avec zivugim, de faire rencontrer les couples. Mais ça veut dire quoi? Pourquoi il a besoin de rencontrer un couple? Pourquoi il a besoin de s'en occuper? Pourquoi? Parce que lui, à quel niveau il s'en occupe? Parce qu'un vrai couple, c'est quoi? C'était une âme entière qui a été séparée en deux. La partie masculine est descendue dans le corps de l'homme, la partie féminine dans le corps de la femme, et après Hachem fait que l'âme se reconstitue et ils sont nouveau un. C'est ça en vérité. Mais ça, il n'y a que Hachem qui peut faire. D'où je sais, moi, quelle est la moitié de mon âme? D'où je sais? Et si un homme très extérieur a deux femmes devant lui, une magnifique et une normale, c'est sûr qu'il va choisir la magnifique. Alors que ce qu'il ne sait pas, c'est peut-être c'est la normale qui est la moitié de son âme. Donc c'est pour ça que c'est Hachem qui fait en sorte que quoi? Que c'est lui qui fait mes avec zivugim. Ça veut dire quand les deux sont méritants, ça veut dire qu'il reconstitue l'âme. Ça veut dire le monde de l'intériorité, qui est le contraire de la faute de Adam. Vous savez tous et toutes que Ève, elle a eu une relation sexuelle avec le serpent. Et vous savez tous et toutes que le serpent, c'était pas un serpent. La Torah l'appelle le serpent parce qu'il vient comme un serpent, mais en vérité, le Talmud dit C'était un homme d'une beauté inimaginable. Et quand elle l'a vu, elle est tombée. C'était, en fait, c'était pas un homme dans le sens Adam, c'était une créature qui avait une forme humaine d'une beauté inimaginable. Et quand elle l'a vu, elle n'a pas résisté. Et ils ont eu une relation ensemble. Absolument. Ça veut dire qu'elle aussi, elle est tombée dans ce qu'on appelle le Yetzer Hara. Elle a vu que l'aspect extérieur. Et elle est tombée. Maintenant, encore une fois, vous comprenez pourquoi on dit, je me répète, on va avancer, Hachem Mezavek Zivugim. Ça veut dire qu'on doit avoir une confiance absolue que celle qui m'est destinée ou celui qui m'est destiné n'est pas forcément celle que avec laquelle je vais me marier parce que c'est, elle est riche, parce que c'est la plus belle, parce que si, etc. Non, parce que c'est la moitié de mon âme. Et en m'unissant à elle, nous rentrons, elle et moi, dans le monde de l'intériorité, dans le monde de l'âme. Et alors, le couple va durer pendant des décennies. Pourquoi ? Parce que c'est l'arbre de la vie. Parce qu'on vit au niveau de notre âme, et au niveau de notre âme, c'est l'arbre de la vie. Et donc, si un homme a vraiment eu le mérite d'être marié avec la moitié de son âme, même s'il passe devant lui le plus beau des mannequins du monde, il ne va même pas la regarder. Pourquoi ? Parce qu'il ne vit pas au niveau de ses yeux, il ne vit pas au niveau de son corps. Il vit aussi et surtout au niveau de son âme. Et donc, la beauté extérieure ne l'attire pas. Ce qu'il veut, lui, c'est la force de l'intériorité. Et c'est ça qui le motive. Et ça, il ne le retrouve qu'avec son épouse. Donc, automatiquement, il ne tombera jamais. Oui.
Il y a ce verset également qui dit que la femme sera sauvée uniquement en devenant mère.
C'est-à-dire ?
Ben justement, c'est une question. C'est dans la Genèse.
Oui.
Elle sera sauvée en devenant mère.
Oui.
En enfantant.
Oui, parce que c'est comme ça que ça les unit.
D'où la nécessité du couple.
Ah oui, oui, oui. Non, j'avais mal compris. Mais c'est un verset. On nous dit qu'il dit ici. Veillou les bassar echad, ils deviendront une seule chair. Et Rashi explique, ils auront un enfant qui les lie tous les deux. Ça veut dire qu'en vérité, exactement ça. C'est la raison pour laquelle tout de suite après la faute, au début, elle s'appelait Isha, mon épouse. Et après la faute, il l'appelle Chava, qui veut dire en vérité la mère de toute vie. Chava, c'est la mère de toute vie, comme expliquent nos commentaires. Et pourquoi il lui a changé son nom? Pourquoi il ne continue pas à l'appeler Isha? Justement, parce qu'il a voulu la récupérer au niveau de son âme. Et au niveau de son âme, bien qu'il savait qu'elle avait fauté, il a voulu la récupérer. Et c'est pour ça qu'il l'a appelée mère, dans le sens qu'il faut qu'on ait quelque chose ensemble. Voilà, absolument. On va continuer. Donc, après avoir donc expliqué que le Yetzer Hara, il engendrait la haine, on va comprendre quelque chose d'assez extraordinaire, mes amis. Le dernier exil d'Israël, qui dure depuis 2000 ans, il est venu à cause de quoi ? De la haine gratuite. De la haine gratuite. C'est la haine gratuite qui a amené le dernier exil qui dure depuis 2000 ans. Or, qu'est-ce qu'on vient d'expliquer ? Que la haine gratuite, c'est l'enfant du Yetzer Hara. Et pourquoi ? Quel est le lien ? Mais parce que, comment on va l'expliquer ? Vous savez qu'il y a quatre exils depuis qu'on est devenu une nation, depuis qu'on est sorti d'Égypte. L'exil de Babylone, l'exil de Perse, l'exil de Grèce et l'exil de Rome, qui correspondent aux quatre lettres du nom divin. C'est-à-dire chaque exil essaye de voiler une lettre du nom divin. C'est pour ça qu'au moment de la délivrance, on dira « En ce jour, Dieu sera un et son nom sera un ». Ça veut dire que toutes les obscurités qui se greffent sur les quatre lettres du nom divin disparaîtront, et à ce moment-là, le nom divin réapparaîtra pour l'humanité tout entière. Tous les peuples diront en ce jour, Dieu est un et son nom est un. D'ailleurs, Rachid dit clairement que ce n'est pas Israël qui va dire Dieu est un et son nom est un, ce sont les nations, aussi incroyable que ce soit. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, Dieu est ton Dieu. Hashem est ton Dieu et Dieu est un. Rachid coupe le verset en deux et il dit, écoute Israël, Hashem est ton Dieu. Ça c'est les Juifs, c'est les Hébreux qui disent ça. Hachem est un, c'est les nations qui diront ça au moment de la délivrance finale. Ça veut dire que toutes les nations reconnaîtront le nom de Dieu. Quand je parle des nations, je parle des peuples et non des dirigeants. Une différence énorme. D'accord ? Nous aussi, on a des dirigeants extraordinaires en ce moment. Fabuleux. Il y en a un, il a une toute petite kippa sur la tête, il a dit que ceux qui ne se vaccinent pas n'auront pas le droit d'écouter le shofar à Rosh Hashanah.
C'est pas vrai.
Ah oui. Et vous imaginez, même quand la gauche était au pouvoir, même lorsque la gauche était au pouvoir, jamais ils auraient osé dire une chose pareille. Et lui, il a un pois chiche sur la tête. Et il a dit, celui qui ne se vaccine pas ne pourra pas écouter le shofar à Rosh Hashanah. Mais c'est incroyable. Je veux dire, mais on regrette nos dirigeants gauchistes d'il y a 10 ou 15 ou 20 ans. Ils étaient beaucoup plus juifs que ceux d'aujourd'hui. Même s'ils étaient gauchistes. C'est incroyable. Vous imaginez Rabin dire une chose pareille, même Pérez dire une chose pareille. Mais il se serait étouffé s'il avait osé dire une chose pareille. Bon, on continue. Quoi qu'il en soit, à cause de la haine gratuite. Et pourquoi? Alors nos maîtres expliquent, surtout le Hari HaKadosh, une chose extraordinaire. L'exil de Babylone a voulu voiler la première lettre du nom divin, le Yud. L'exil de Perse a voulu voiler la deuxième lettre du nom divin, le premier E. L'exil de Grèce a voulu voiler la troisième lettre du nom divin, de droite à gauche, le Vav. Et le dernier exil, l'exil de Édom, Esav, veut voiler la dernière lettre, le dernier E. Et le Hari HaKadosh révèle quelque chose que je dis dans un langage très très simple. Il dit en fait, les quatre lettres du nom divin et les trois premières appartiennent encore au monde de l'intériorité. Mais la dernière, le dernier E, c'est le monde de l'extériorité, le monde de la matière. Pourquoi ? Facile à comprendre. Je vais le dire de manière très simple, je pourrais expliquer pendant des milliers d'heures. Le Yud, ça correspond à ce que nos maîtres appellent la sagesse. Les Babyloniens ont voulu attaquer la sagesse d'Israël. La sagesse, c'est intérieur, c'est extérieur, c'est complètement intérieur. Très bien. Les Grecs et les Perses sont attaqués au premier E, qui est la Bina. Comment s'appelle la Bina d'après nos maîtres? La Vin Davar, Mitor Davar. Comprendre ce qui se cache à l'intérieur d'une chose. C'est aussi le monde intérieur. Le Vav, c'est les qualités. Les six qualités, la bonté, la rigueur, l'équilibre, l'optimisme, la reconnaissance et la stabilité. Les qualités, elles sont intérieures ou extérieures? Elles sont intérieures. Les Grecs se sont attaqués aux six qualités, le Vav. Ce qui veut dire qu'en vérité, les trois qualités premières, le Yud, le E et le Vav, sont des qualités qui appartiennent à un monde caché. Et pourquoi les trois peuples se sont attaqués à eux? Parce que ces trois peuples-là étaient aussi des peuples qui avaient une certaine intériorité. D'accord? Les Babyloniens, les Grecs et les Perses étaient tous des croyants. Et excusez-moi de le dire, même s'ils étaient idolâtres, c'est une croyance quand même. Ils croyaient en des forces. Il n'y avait pas de laïcité chez eux. Il n'y avait pas de laïcs. C'est sûr que l'idolâtrie est interdite. Mais même si tu es un idolâtre, ça prouve que tu crois malgré tout en des forces qui ne sont pas les forces que tes yeux voient uniquement au niveau de la matière. Et le quatrième exil, bon, qui a commencé aussi d'une manière religieuse, mais qui déjà depuis de nombreux siècles a sombré complètement dans la laïcité, la matérialité. Ça veut dire ce que la Révolution française a appelé la séparation entre l'Église et l'État. Ça veut dire que tu veux être religieux, reste à l'Église, mais tu veux être un homme authentique, viens avec nous dans ce monde. Un point, c'est tout. Le pouvoir, l'argent, etc. Mes amis, la seule et unique fois dans toute l'histoire humaine qu'il y a eu un monde laïque, c'est le dernier exil. Les Babyloniens n'étaient pas laïcs, les Perses n'étaient pas laïcs, les Grecs n'étaient pas laïcs. Bien qu'il y ait eu un commencement malgré tout, mais ils n'étaient pas laïcs. La preuve, ils croyaient en des dizaines de dieux, etc. La seule génération, la seule, enfin la seule civilisation qui a amené la laïcité dans le monde, c'est le monde occidental, le monde de Essa. Et donc c'est le dernier « et » qui correspond au monde de la matérialité. Et donc, puisque c'est le monde de l'extériorité, c'est le monde dans lequel le Yetzera, il est le plus fort. Maintenant, vous comprenez pourquoi le deuxième temple et le dernier exil a commencé avec la haine gratuite ? Parce qu'à cette époque-là, qui dominait Israël ? Les Romains. Et donc, il y avait une influence. Bien que ça a mis du temps à sortir, il y avait déjà une influence du monde de la laïcité, le monde de l'extériorité, et ça a amené l'enfant du Yetzer Hara, la haine gratuite, à l'intérieur du peuple juif. Mais comme je dis toujours, le peuple juif est le microcosme de l'humanité tout entière, ce qui veut dire qu'en vérité, le dernier exil a amené la haine gratuite dans l'humanité tout entière, jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de guerres et autant de morts que depuis le début de l'Empire romain. Rien que la Première Guerre et Deuxième Guerre mondiale, 70 millions de morts en l'espace de 30 ans, même pas. 70 millions de morts. Ça n'a jamais existé dans l'histoire humaine, sans compter toutes les autres guerres, les croisades, etc., etc., et toutes les guerres qu'il y a eu en Europe. Donc ce sont des centaines de millions de morts. La haine. Je ne te supporte pas. Pourquoi ? Parce que c'est le monde de l'extériorité, l'arbre du bien et du mal. Alors pourquoi l'arbre s'appelle aussi l'arbre du bien et du mal ? Pourquoi ? Alors, il y a des milliers d'explications. Et je vais vous en donner une, qui pour moi est la plus forte. Au niveau des peuples, même dans le monde occidental, il y a des gens extraordinaires partout. Il y a des gens, même laïcs, qui sont extraordinaires. Il y a des gens de toutes les religions qui sont extraordinaires. Il y a des catholiques extraordinaires, il y a des protestants extraordinaires, il y a des évangéliques, il y a des musulmans extraordinaires. Sur le plan des peuples, il y a des gens extraordinaires partout. Mais quel est le rat ? C'est pas de moi, c'est dans le Zohar, c'est les dirigeants. Les dirigeants, eux, c'est eux qui amènent la haine entre les peuples. C'est eux, ils sont complètement investis par le Yetzer Hara. Et donc, on le sait tous, hein. Trouvez-moi un dirigeant dans le monde occidental qui n'avait pas 555 000 maîtresses. Mitterrand, Chirac, etc. Mais chez nous aussi, ne vous inquiétez pas. Chez nous aussi. Dans tous les... Et Trump, même si c'était un homme bien dans beaucoup de domaines, on sait qu'il s'est drôlement amusé, hein. Et là, je ne peux pas l'enregistrer, mais qui est celui qui a le réseau de pédophilie le plus important du monde ? Le fils de Biden. Vérifiez, vous verrez que j'ai raison. Oui. C'est très connu. Il a des procès comme ça sur sa tête. L'un des réseaux de pédophilie le plus important du monde. Oui. Donc, les dirigeants sont très corrompus. Le pouvoir, les femmes, l'argent, etc. Pas les peuples. Pas les peuples. Mais les peuples sont soumis par les dirigeants. Ils sont écrasés. Mais quand le Mashiach viendra, nous dit le Zohar, les premiers qui rejoindront le Mashiach, ce sera les Juifs ? Non. C'est pas de moi. Ça me fait mal de le dire. Mais le Zohar affirme que les premiers qui joindront le Mashiach, ce seront des hommes et des femmes de toutes les nations. C'est incroyable. Pourquoi ? Parce qu'ils sentiront qu'ils vont enfin pouvoir être libérés de tout ce joug, de toute cette dictature qui écrase les peuples depuis des millénaires. Donc on continue. Donc maintenant on comprend pourquoi le deuxième temple, et ça fait 2000 ans qu'on est en exil, c'est à cause donc de la haine gratuite. Parce que Israël est le microcosme de l'humanité tout entière, et comme l'Empire romain, qui est le monde de la laïcité, qui est le monde de l'extériorité, qui est le monde de l'arbre du bien et du mal, et au niveau des dirigeants, du mal absolu, qu'est-ce qu'a fait Titus lorsqu'il est rentré dans le Kodesh HaKodashim ? Il a pris une prostituée, il a pris la Torah, il l'a ouvert comme un lit, et il s'est mis dessus avec la prostituée. Mais vous pensez que les Perses auraient osé faire une chose pareille ? Les Grecs auraient osé faire une chose pareille. Même les Grecs n'auraient pas osé faire une chose pareille. La preuve, les Grecs ont détruit le temple. Ils ne l'ont pas détruit. Ils n'ont pas détruit le temple. Et les Perses, en tout cas les premiers rois perses, Cyrus, Darius, ont donné une partie de leur armée et de l'argent aux Juifs pour reconstruire le deuxième temple. C'est vrai, les Babyloniens ont détruit le premier temple. Mais allez trouver une histoire comme celle de Titus. Vous imaginez un Babylonien prendre une prostituée et rentrer dans le Kodesh HaKodashim, ouvrir la Torah, se coucher dessus avec une prostituée? Jamais, même les Babyloniens n'auraient pas osé faire une chose pareille. Titus, lui, il l'a fait. Pourquoi? C'est la matérialité à l'état pur. Et c'est ce qui a amené la haine gratuite dans le monde entier. La haine gratuite dans le monde entier. Maintenant, on va aller encore un petit peu plus loin. Je l'ai souvent expliqué que finalement, et il y a des allusions énormes dans le Zohar et dans d'autres textes, que finalement, la Torah, la vraie Torah, est arrivée plus ou moins à survivre dans les trois premiers exils. Mais elle a pratiquement disparu dans le quatrième exil. Il y a toujours des individus qui ont encore la vraie Torah. Mais la vraie Torah a été remplacée par ce qu'on appelle la religion. C'est quoi la religion? C'est en vérité, comme je l'ai souvent expliqué, l'arme des dictateurs. Pourquoi? Parce que les dictateurs savent très bien que pas tout le monde peut être laïque. Même en France, pas tout le monde est laïque. Même en Amérique, pas tout le monde est laïque. Il y a énormément de protestants, énormément d'évangéliques, énormément de catholiques dans le monde entier, même en Russie, partout. Et donc, ils ont besoin d'une arme pour finalement affaiblir et endormir ceux qui sont croyants. Et c'est la religion. Pourquoi? Parce que la religion, on peut la résumer, je parle de la religion juive aussi, attention, hein, par la phrase française très célèbre, l'espoir fait vivre. Ça veut dire on fait vivre l'homme dans une utopie où il attend tout de Dieu, il ne fait rien lui-même, et c'est l'absolu contraire de la Torah. Comme on l'a dit la semaine dernière, si je ne me trompe pas dans ce cours, c'est quoi le mois d'Eloul, qui est le mois de la Tshuva? Ani le dodi ve dodi li. Pour que Dieu vienne vers moi, c'est à moi d'aller vers lui. Mais pas dans le sens uniquement la prière, dans le sens de l'action. Avoir le courage de se battre contre tout le mal qu'il y a dans ce monde. Qui fait ça aujourd'hui? Il y en a eu. Mais ils sont tous fait assassiner. En Amérique, Martin Luther King s'est fait assassiner. Gandhi, en Inde, le Rav Kahana, chez nous, on sait très bien qui l'a tué. Ils ont pris un arabe, on sait très bien qui était derrière lui. Aujourd'hui, on le sait. Et voilà, dans tous les pays où quelqu'un a voulu se battre contre le mal, Coluche, un camion lui est rentré dedans, parce qu'il avait décidé de rentrer en politique, etc., etc. Donc, je peux comprendre pourquoi on hésite, nous, à se battre contre le mal. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que on ne vivra pas longtemps. C'est pour ça que je dis toujours que je ne sais pas comment le Mashiach va faire. Parce que lui, il aura tout le mal de ce monde contre lui. Les dirigeants, les puissances financières, les mafionnaires. Je ne sais pas comment il va faire. Comment il va s'en sortir? Bon, l'espoir fait vivre. Mais sincèrement, alors les idiots vont dire, oui, mais Dieu l'aidera. Pourquoi les idiots vont dire ça? Parce que ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner. Ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner. Il va devoir s'investir énormément. Il va devoir se mettre en danger. Et comment il va s'en sortir? Dieu seul sait, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est sûr que ça sera un homme d'action. Regardez ce que dit Maïmonide dans Mishneh Torah. Le dernier chapitre de son fameux, dans son œuvre magistrale, le Mishneh Torah, où il parle dans ce dernier chapitre du Mashiach, il dit que le Mashiach partira en guerre contre tous les méchants de ce monde. Il le dit clairement. C'est pas qu'il va dire à Dieu, sauve le monde, fais tout pour nous. C'est lui qui partira en guerre contre tous les méchants de ce monde. Comment qu'il va survivre, j'en sais rien. Sincèrement, j'en sais rien. Mais en tout cas, il réussira. En attendant, jusqu'au Mashiach, tous ceux qui ont essayé de purifier le monde se sont fait assassiner. Il n'y a pas un qui a échappé à ça. Tous sont fait assassiner. Tous. Il y avait en Israël, il y a quelques années, je ne vais pas entrer trop dans les détails, je ne vais même pas citer son nom, un homme que j'ai connu, que des milliers ont connu, qui a écrit un livre après l'assassinat de Rabin. Bon, il avait sa thèse, etc., qui l'a assassiné, qui était derrière, etc. Bon, peu importe, je ne rentre pas dans les détails. Du jour au lendemain, il a disparu. Il a disparu. On ne sait pas où il est, s'il est mort, s'il était malade, qu'est-ce qu'il est devenu. Et moi, je le rencontrais souvent. Un homme extraordinaire, c'est un Américain d'origine, mais qui vivait en Israël. Il a écrit sa thèse sur l'assassinat de Rabin. Je ne rentre pas dans les détails, peu importe. Vrai ou faux, ce n'est pas le problème. Il a disparu. Personne ne sait jusqu'à aujourd'hui ce qu'il est devenu. Disparu complètement. Pourquoi ? Parce que ce livre-là dérangeait énormément. Parce qu'il disait des choses très difficiles à accepter sur les véritables raisons de l'assassinat de Rabin. Une chose est sûre, mais là je peux le dire sans la moindre hésitation, parce que vous vérifierez que j'ai raison, Rabin au départ était pour les accords d'Oslo. C'était un des premiers. Et après il s'est rendu compte que finalement, que les accords d'Oslo n'allaient pas amener la paix que lui souhaitait, et il avait l'intention de parler devant tout le peuple pour dire que finalement il voulait renoncer aux accords d'Oslo. Mais entre-temps, il s'est fait assassiner.
Et Shimon était pour.
Comment ?
Shimon était pour.
Pérez était pour, absolument. Et le temps qu'il organise cette conférence de presse où il voulait annoncer à tout le peuple qu'il se retirait des accords d'Oslo, entre-temps, il a été assassiné. Et ça, c'est une chose que vous pouvez vérifier, vous verrez que c'est vrai. Il avait vraiment l'intention de se retirer des accords d'Oslo. Maintenant, il y a quelque chose d'absolument incroyable avec les accords d'Oslo. Moi, ça fait 30 ans que je suis en Israël. Avant les accords d'Oslo, dans les années 93, dans les années 92, 93, on allait à Shrem, on se promenait dans le chouk de Shrem, on disait bonjour aux Arabes, on se serrait la main, etc. On allait dans le chouk de Hebron.
C'était
comment ?
Les plantes, on les achetait à Bethléem.
Bien sûr, on les achetait à Bethléem, on allait à Bethléem, on allait dans le chouk de Hebron, dans le chouk de Shrem, Salam Aleikoum, etc. C'était une vitrine, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, la vitrine tenait. Depuis les accords d'Oslo, allez vous promener dans la chouk de Hebron. Vous avez juste le temps de faire Shema Israël, encore vous ne terminerez pas la phrase. C'est incroyable. Les accords d'Oslo ont amené la terreur en Israël. Alors qu'avant les accords d'Oslo, on pouvait se promener en plein milieu des Arabes, même tout seul, et il ne nous arrivait rien. C'est incroyable.
On leur a donné de la force.
Comment ? Ben oui. Donc vous voyez bien que c'est tout le contraire de ce qu'on appelle les accords d'Oslo. Et Rabin l'avait compris, il voulait se retirer. Il n'a pas réussi. On continue. Maintenant, je voudrais juste terminer, il nous reste 10 minutes. Je parlais donc de la religion. La religion, c'est quoi ? La religion a été inventée par les dictateurs. Qu'ils soient démocrates ou qu'ils soient staliniens, ce sont tous des dictateurs. Il y en a qui se cachent, il y en a qui sont visibles, etc. La religion, et pareil, la religion juive. Aujourd'hui, la Torah a pratiquement disparu. Pourquoi ? Arrêtez un juif religieux dans la rue, demandez-lui alors, ça va s'arranger. Bezrat Hashem. Et j'ai envie de le prendre et de l'égorger.
Yétov.
Bezrat Hashem. Mais qu'est-ce que tu fais toi ? Moi, au moins, j'ai noté dire, je fais rien. Je suis un malade mental. Je fais rien. Voilà. Mais je ne dis pas Bezrat Hashem. Je fais rien. Je suis un nul. Je suis un zéro. Voilà. Mais arrête de dire Bezrat Hashem. Le Mashiach va venir. Iné Mashiach va. Yéhi Adonenu Morenu Verabenu. Voilà. Ok. Top. Donc c'est ça la religion. Ça veut dire qu'on s'en remet complètement à Dieu, au Sauveur. Allez, fais tout pour nous. Et c'est pour ça que Mashiach ne vient pas. Même pas il téléphone. Vous avez une chanson israélienne qui dit Afilou Lomet Alfen. Même pas il téléphone. Pourquoi ? Parce qu'il dit maintenant, mais faites quelque chose. Surtout que nos maîtres nous ont dit que la venue du Mashiach correspond à un accouchement. Donc ça veut dire qu'on doit être actif. Ça veut dire qu'on doit se faire féconder, on doit le porter pendant 9 mois, et on doit hurler au moment de l'accouchement, parce que là, il n'y aura pas de péridurale, ça c'est sûr. Donc le Mashiach, pourquoi il ne vient pas ? Il dit, où est mon ventre ? Soyez mon ventre ! Où est mon ventre ? Il cherche un ventre, il n'en trouve pas. C'est pour ça qu'il ne vient pas. Voilà. Mais Bezrat Hashem. Ok, Bezrat Hashem. Très bien. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Vous savez que le Zohar explique que la racine du dernier Galout, le Zohar l'appelle le Erev Rav. Le Erev Rav, on va dire, c'est le monde de la confusion. Qu'est-ce que ça veut dire, la traduction de Erev Rav? Le monde de la confusion, le monde on ne sait plus qui est quoi aujourd'hui. D'accord? D'accord. Quelle est la deuxième langue qu'on parle en France? La deuxième.
Le français.
Le français. Très bien. Ok. C'est une blague, mais elle est presque vraie. D'ici quelques années, ça sera vraiment vrai. Ok. La deuxième langue qu'on parle en France, c'est le français. Très bien. Ok. Ok. Tout est mélangé. Pas seulement au niveau physique, mais au niveau des idées, au niveau des... Vous connaissez encore un français qui chante la Marseillaise le 14 juillet? Mais je peux vous garantir que même ici, hein, même ici, avec le temps, si les choses ne changent pas, on ne trouvera plus beaucoup de juifs qui chanteront la Hatikva Yom Hatzmaout. Parce que le monde est en train de se laïciser, même en Israël, d'une manière inimaginable. Les gens se sentent de moins en moins juifs. Je m'excuse de dire ça, mais ne me jetez pas une pierre au visage, mais je m'excuse. Quand je suis arrivé il y a à peu près 30 ans en Israël, je connaissais beaucoup de chilonim, parce que bon, pendant 8 ans, j'ai travaillé dans les prisons, etc. Et je rencontrais des gardiens, même complètement chilonim. Mais je ne sais pas, je les sentais juifs. Ils étaient chilonim, ils mangeaient peut-être du cochon, ils ne faisaient pas Shabbat, mais je les sentais juifs. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de sentir un chilonim vraiment juif, parce qu'ils se sont tellement occidentalisés, ils se sont tellement éloignés. Je ne les critique pas parce qu'ils n'ont pas reçu d'éducation, parce que l'idéologie qui règne est comme ça, mais aujourd'hui, ce n'est pas évident. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de sentir vraiment tu es en face d'un tatoué des pieds jusqu'à la tête avec un coucou là et un truc et machin et 10 boucles d'oreilles dans les oreilles et tu dis il est juif. Je suis désolé, je veux dire, c'est pas évident. C'est pas évident. Et donc le Zohar affirme que le monde, pas seulement Israël, sera dominé par le Erev Rav. Ce qui est extraordinaire, si vous prenez Erev Rav, dans le mot Erev Rav, vous avez deux fois le mot Rav. Vous avez le Aïn, Erev, Aïn Rav et Rav. Vous prenez le mot Rav, Rav deux fois, ça fait le mot date, religion. Et Aïn fait allusion aux 70 peuples. Et Israël, le microcosme, c'est 70 peuples. C'est quoi le secret du Erev Rav? C'est que dans les 70 peuples, y compris Israël qui est le microcosme des 70, qu'est-ce qui va être l'ennemi numéro 1 du monde? Date, la religion. Je n'ai pas dit la Torah, j'ai dit la religion. C'est-à-dire une croyance qui nous empêche d'agir. Dieu est mon sauveur. Be'ezrat Hashem. Moi, je n'ai rien à faire que à prier. Je lis les psaumes tous les jours. Mais qu'est-ce que tu fais concrètement sur le terrain? Rien. On a eu des exceptions, je l'ai déjà dit, et je le redis, et je me répète des milliers de fois, mais je ne cesserai jamais de me répéter. On en a eu un, qui au moment où il a été tué au Liban, tous les officiers d'Israël ont dit, depuis David Ameller, on n'a jamais eu un homme comme ça dans notre armée. Comment il s'appelait? C'était un Français, Moreno, Sayeret Matkal. Extrêmement religieux. Enfin non, je n'ai pas dit mot religieux, c'est un gros mot religieux. Extrêmement attaché à Dieu. Un homme qui étudie, un homme qui... Mais c'est en même temps un homme d'action. Sayeret Matkal. J'ai déjà raconté cette histoire mille fois, qu'il est une fois revenu de mission avec ses soldats, et il y avait deux portes dans l'hélicoptère. Donc une porte à droite, une porte à gauche. Et tout le staff, le Rosh Memshala, le président de l'État d'Israël, le Ramatkal, tout le monde était là pour le serrer dans les bras, parce qu'il avait réussi sa mission. Tous les soldats sortent et lui, il ne sort pas. Alors le Rosh Memshala, je ne sais plus qui c'était, peut-être c'était le maire, je ne sais plus exactement, demande, mais où il est Moreno? Alors celui-là, lui, il est sorti par la porte de l'autre côté parce que c'était l'heure de faire Mincha. Il fait Mincha. J'ai des larmes aux yeux, une chose. Vous imaginez, tout le staff d'Israël, tous les plus grands d'Israël l'attendent, et lui, il sort par l'autre porte pour faire Mincha. Donc c'était un homme vraiment, vraiment, un vrai, vrai, je ne sais pas comment dire aujourd'hui, croyant, religieux, c'est des gros mots, on ne dit pas ça. Un vrai homme de Torah, c'est que quand il revenait de mission, l'une des premières choses qu'il faisait encore avant de se laver, C'est, il ouvrait une Gemara, il étudiait, ne serait-ce pendant 5-10 minutes pour dire à Hachem, regarde, j'étudie. Un homme incroyable. Sa femme a mis plus de 10 ans pour se remarier, alors qu'elle était jeune, elle avait 27-28 ans, sa femme. Elle a mis plus de 10 ans pour se remarier, elle pouvait pas, c'était impossible. Avoir vécu avec un homme pareil. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Il existe encore des hommes authentiques sur terre qui, bien qu'ils sont attachés de toute leur force à Dieu, ils savent que si tu n'es pas un homme d'action, tu n'es pas un homme de Torah. Il y a eu David Ameller, il y a encore dans notre génération encore, mais on peut les compter sur les 5 doigts de la main. Et c'est ça le secret de Erev Rav. Aïn, dat. Que tous les peuples sont tombés dans la religion. Puisque Rav Rav, ça fait dat. Qui veut dire la religion. D'accord. Donc, pour conclure, mes amis, puisque l'heure est arrivée, on est dans le mois de Elul. On arrive à Rosh Hashanah. Vous comprenez et vous savez tous et toutes qu'on est aujourd'hui dans le monde entier dans une situation très compliqué, des tremblements de terre, des inondations, des feux partout. Là, toute la région de Shoresh, elle a brûlé. C'est inimaginable ce qui se passe. Plus de 2000 personnes ont été évacuées de leur maison. Des milliers d'arbres ont été incendiés en Turquie, en partout. Les inondations en Allemagne, etc. Voilà. Mais je suis désolé de vous dire, d'accord, bon, excusez-moi, je suis ashkénaze, alors je vais vous le dire quand même. Que le Zohar nous dit que juste avant la délivrance finale, il y aura des problèmes, des catastrophes naturelles terribles dans le monde entier. Le Rav Kadouri l'avait annoncé en son temps, il y a absolument...
Le tremblement de terre à Haïti.
Haïti, oui. Bien sûr,
il y a eu... Un tremblement de mort il y a 2 jours.
Bien sûr, un tremblement de mort à Haïti, un tremblement de terre à Haïti, etc. C'est incroyable ce qui est en train de se passer, sans parler de la pandémie, du corona, etc. Et sans parler aussi, vous savez que le nouveau dirigeant de l'Iran, qui est Hitler, c'est un enfant de cœur à côté, enfin j'exagère, mais enfin presque, qui est un assassin mais inimaginable, qui a tué des dizaines de milliers d'hommes et de femmes, etc., qui se sont révoltés contre le régime, une crapule inimaginable, a annoncé clairement qu'il est prêt à rentrer en guerre contre l'Occident. Ça veut dire que le monde, dans tous les domaines, est en train de au niveau naturel, au niveau des maladies, au niveau des guerres, on ne sait pas ce qui va se passer.
Et l'Afghanistan,
les talibans qui ont repris tout l'Afghanistan. Et là aussi, je veux dire, je comprends pas. Mais alors, pourquoi vous les avez massacrés pendant des années pour après leur... Et je m'excuse de dire ce que je vais dire. Mais d'un autre côté, je veux dire, qu'est-ce que les Américains et les Russes foutaient en Afghanistan? Après tout, les talibans, c'est des Afghanistans. Laissez-les se débrouiller. Pourquoi être là-bas?
Ce sont des tribus juives.
En plus, les talibans sont des descendants des tribus juives, comme on le sait.
Oui.
Ouais, bon, ils sont plus juifs aujourd'hui. Mais oui, bien sûr, absolument. Mais les 10 tribus israéliennes ont été exilées en Afghanistan et au Pakistan, de l'époque. Et les talibans... Vous savez que c'est les seuls qui font la circoncision à 8 jours. Contrairement aux musulmans, que c'est à 13 ans. Ils le font à 8 jours, ils ont gardé cette tradition. Et plus encore, les talibans respectent, pas comme nous, mais respectent les lois de pureté familiale. Les talibans ne vont pas avec une femme pendant sa période de règles. Et après, ils lui demandent de se tremper. Pas comme nous, mais et beaucoup de traditions juives sont restées chez les talibans. Et on sait qu'ils sont d'origine juive. Enfin, les 10 tribus, il y a 3000 ans, ils sont musulmans aujourd'hui. Mais en tous les cas, d'origine, ils sont juifs. D'origine, je parle. Donc, pourquoi les Russes, les Américains, ils ont tellement... Pourquoi? Puisque après, ce sont pour partir et les laisser reprendre tout l'Afghanistan. Vous comprenez quelque chose? C'est normal? C'est juste? Pourquoi? Comment? Ben non, ils sont partis, ils sont plus, ils sont partis maintenant. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Bon, alors je demande de ne pas enregistrer ce que je vais dire. Parce que la CIA avait besoin, comme le KGB, d'énormément d'argent noir. Parce qu'ils n'en recevaient pas suffisamment de l'État. Et ils avaient besoin de tous les champs d'opium qu'il y a en Afghanistan pour se faire de l'argent et pour pouvoir avoir des millions sous la table, et tout le monde le sait aujourd'hui. Voilà. C'est la raison essentielle pour laquelle les Russes, au départ, et les Américains étaient en Afghanistan, parce que c'est le pays où il y a le plus de champs d'opium du monde. Et ils avaient besoin de millions et de millions sous la table pour pouvoir agir, parce que le Parlement américain ne leur donne pas suffisamment d'argent.
C'est le peuple qui traîne.
Voilà. Et c'est toujours les peuples qui traînent, etc. Absolument. Et donc, d'une certaine manière, moi, personnellement, ça ne me dérange pas que les talibans reprennent l'Afghanistan. Après tout, ce sont des Afghans qui reprennent leur pays, et c'est tout. Même si c'est des gens un peu cruels, mais d'un autre côté, je veux dire, mieux vaut eux que les Américains, parce que les Américains étaient là-bas que pour les champs d'opium. Bon. On en a suffisamment révélé des choses aujourd'hui, on va s'arrêter, et puis on se retrouve la semaine prochaine.
Heureusement, ils sont sunnites et l'Iran est chiite.
Comment ?
Heureusement, ils sont sunnites, tandis que l'Iran est chiite.
Oui, les Afghanistan sont sunnites, bon, Hachem.
Parce que ça pourrait faire cohésion.
Oui, ah oui, heureusement, oui.